la création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Aire-et-Dax et de Bayonne. Aujourd'hui, nous allons entendre plusieurs témoignages. Le premier témoignage, celui de Jeannette Bayard, responsable Église Verte dans le diocèse des Landes, le label Église Verte, les enjeux d'une expérience. Puis nous entendrons le témoignage de trois chrétiens de la paroisse Saint-Vincent de Paul Bayonne, l'abbé Michel Garat et Nanou et Yvette qui nous parleront de la mise en œuvre concrète du label Église Verte dans leur paroisse. Puis le dernier témoignage sera intitulé « Espace vert et urbanisation » avec Monique Angulot, pépiniériste. Nous commençons par le label Église Verte, les enjeux d'une expérience, Jeannette Bayard, responsable Église Verte dans le diocèse d'Aire-et-Dax.
Bonjour, alors un des objectifs de mon rôle de référente à l'écologie intégrale, parce que c'est Monseigneur Souchu qui nous a nommé il y a un an, et une de mes missions, c'est le développement du label Église Verte dans les Landes, donc voilà, c'est pour ça que j'interviens aussi. Et nous ferons donc deux parties. Moi, je parlerai de la théorie, d'où vient le label, la genèse, voilà, comment il fonctionne, et où en sont les projets sur le label Église Verte cette année, là. Et la deuxième partie, nous verrons concrètement comment il se vit dans une paroisse. Alors, pourquoi le label Église Verte? Pourquoi il a été créé? Alors, parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu'il l'a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder.
Oh, ben, ça marche pas. Il faut
c'est bon. Parce que la vie sur la terre est une bénédiction et montre l'amour de Dieu. Et qu'agir pour la préserver est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement. Dans Romains 8, et à choisir, dans l'espérance, des modes de vie qui préparent l'émergence d'une création nouvelle, maintenant et au-delà. Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde. Parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique, nécessaire à la survie de l'humanité. Et aussi, le pape François nous dit, dans Laudato Si, paragraphe 13, « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » Le label Église Verte vient d'une initiative œcuménique. Alors, dès les années 70, le Conseil œcuménique exhorte les églises à agir pour la planète et la justice sociale. Les premières à s'engager en France ont été les églises d'Alsace. Une forte dynamique œcuménique est impulsée par le Conseil œcuménique des églises avec le programme Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. En Roumanie, à Sibiu, lors du troisième rassemblement œcuménique européen en septembre 2007, les représentants des différentes églises en Europe prennent la décision de recommander un temps pour la création. Ce temps, c'est du 1er septembre au 4 octobre de chaque année. Le 1er septembre étant pour les orthodoxes le début de l'année liturgique et le 4 octobre la fête de Saint-François d'Assise pour les catholiques. Alors pour les catholiques, la publication de l'encyclique Laudato Si en 2015 constitue un événement majeur. Un nouveau départ est créé en 2015, appelé un nouveau département, excusez-moi, est créé en 2015, appelé Écologie et Société, qui a la mission d'accompagner la réception de l'encyclique. Il va ainsi ouvrir une page Laudato aussi sur le site de la Conférence des évêques de France, initier une réflexion sur les modes de vie et sur la théologie de la création, et animer le réseau en voie de construction des référents diocésains à l'écologie intégrale. Du côté protestant, la Fédération protestante se mobilise dans le cadre de la COP21, qui a eu lieu donc en novembre 2015 à Paris. L'association Arocha travaille de manière active sur le terrain pour la préservation et la restauration de la nature et mène de nombreuses actions de sensibilisation. La COP21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens sensibles aux questions environnementales et initié une démarche œcuménique qui s'est exprimée notamment par la mise en place du Jeûne pour le climat, la publication de la brochure « Habiter autrement la création », le succès des assises chrétiennes de l'écologie qui ont réuni 2000 chrétiens à Saint-Étienne, la célébration commune à Notre-Dame de Paris, la mobilisation de nombreuses églises et mouvements pour la COP21. Il y a eu l'accueil des pèlerins, marche, la remise de 1,8 million de signatures. Cette mobilisation visait aussi à être un tremplin pour ensuite impliquer concrètement les chrétiens, les paroisses, les communautés, qui sont aujourd'hui en attente d'une suite et de propositions concrètes. De plus, la multiplication d'initiatives du temps pour la création et côté catholique, l'encyclique Laudato Si, ont rendu les communautés mûres pour des démarches durables. 10 ans après la mise en place du temps pour la création lors du rassemblement œcuménique de Sibiu, les églises chrétiennes en France ont décidé d'inscrire le soin de la création dans la durée en lançant le label Église verte. Le label Église verte a été lancé le 16 septembre 2017 à Paris lors d'une journée nationale Église verte. Alors, il est porté par le Conseil des églises chrétiennes en France, la Conférence des évêques de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, la Fédération protestante de France. Et il est soutenu par le CCFD Père Solidaire, le CERAS, le Secours catholique. Il est parrainé par la Congrégation des Sœurs Auxiliatrices des âmes du Purgatoire, Okeo, Église et Environnement, Colmont, la Maison des Sapins, le CEDRE, Groupement d'achat. Et la mise en œuvre a été confiée à AVEC, accompagnement vers une éco-responsabilité chrétienne, et Arocha, une association chrétienne internationale pour la conservation de la nature. Alors, qu'est-ce que le label Église verte ? Le label est un outil à destination des paroisses, églises locales, ainsi que des œuvres, mouvements, monastères, établissements chrétiens qui veulent s'engager pour le soin de la création. Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les solutions semblent complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d'aider une communauté à démarrer ou renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression et d'afficher son engagement. Le label n'est pas une fin en soi, mais un outil d'encouragement et de progression. Le label Église verte évaluera, accompagnera et rendra visible l'engagement des équipes locales, paroisses, communautés, œuvres et mouvements chrétiens qui s'engageront dans une démarche écologique. Instrument clé du label, le site Église verte, alors sur lequel on trouve beaucoup, beaucoup de choses, guidera ses acteurs dans leur conversion écologique, aussi bien sur les questions pratiques que sur les questions spirituelles, liturgiques, pastorales et citoyennes. Le réseau identifiera les acteurs adhérents à la démarche, les accompagnera et les mettra en lien. Alors l'objectif de l'Église verte. La démarche entend favoriser une véritable conversion écologique parmi les chrétiens. Elle sera centrée sur la spécificité chrétienne de prendre soin de la création. Dans Genèse 2,15, cultiver et garder. Elle suscitera en cohérence des actions écologiquement vertueuses, en assumant notre juste part de la réduction de l'empreinte écologique. Cette prise en compte d'une écologie intégrale intègre donc au processus les enjeux de justice, de paix, de solidarité, de gratitude et de prière. Alors comment faire ? D'abord constituer un groupe, même petit, pour mener la démarche. Celui-ci demande l'accord des responsables de la communauté pour procéder à l'éco-diagnostic. Je reviendrai après sur l'éco-diagnostic. Enregistrer sa communauté, envoyer une copie par courriel à l'Église verte qui vous enverra en retour le label à afficher. Celui-ci précise que vous avez atteint le niveau graine de Sénévé, qui est le premier niveau, et l'année en cours de laquelle il a été délivré. Ensuite, remplir le diagnostic et l'envoyer à Église Verte en précisant les deux ou trois actions que vous avez décidé de mettre en œuvre. Avec ces engagements, vous atteignez déjà le niveau liste des champs. Progressez en remplissant chaque année le questionnaire. Petit à petit, vous définirez de nouvelles actions à mettre en œuvre et franchirez des différents niveaux de progression. Alors, l'éco-diagnostic, dont je parlais tout à l'heure, a pour objectif de permettre à chaque communauté de survoler les différents domaines dans lesquels il est possible de mener des actions d'amélioration et d'avoir une bonne connaissance de l'état des lieux. C'est important de savoir où on en est pour progresser ensuite. Le questionnaire est constitué de 5 domaines. Alors, célébration, catéchèse, terrain, engagement local et global, mode de vie. La réponse aux questions génère une attribution de points dont il est possible de consulter les détails. Et ce score est matérialisé par des plantes bibliques. Alors, graines de Sénévé, cèdre de vigne, figuier, cèdre du Liban. C'est le dernier niveau. Actuellement, il y a 550 communautés d'Église verte en France. Alors, Église verte, le mardi 24 novembre dernier, a eu une assemblée constitutive d'Église qui est passée du statut collectif informel, puisque c'était un collectif qui portait le label, à une association loi 1901. Après quelques mois d'échanges avec les représentants des trois confessions chrétiennes, des statuts associatifs ont été validés et seront déposés dans les prochains jours. Le Conseil des Églises chrétiennes en France a joué un rôle important dans la coordination. À Rocha, le CCFD Terre Solidaire, le CERAS, le Secours Catholique et le réseau des référents diocésains à l'écologie intégrale sont toujours de la partie, ainsi que les chrétiens unis pour la terre. François Claveroli, Mgr Neumoulin-Beaufort et Mgr Emmanuel ont présidé cette première assemblée générale. Les nouveaux statuts prévoient une assemblée des communautés. Chaque communauté labellisée y sera invitée. Alors, le label Église verte, c'est un label aussi qui bouge, qui a des projets. Et dans les projets, il y a 6 nouvelles déclinaisons du label Église verte. Alors, pour les jeunes, Pollen d'Église, c'est un label qui est déjà en test. Il y a un label pour les familles, en lien avec la pastorale familiale, avec les monastères. C'est un questionnaire qui est fait et qui va être testé. Les congrégations, c'est un label qui va démarrer. Un label aussi pour les associations, EHPAD, centres d'accueil. Et pour les écoles. Voilà. Une réunion est prévue avec l'enseignement catholique. Voilà pour le label Église verte.
Le label Église verte, les enjeux d'une expérience. Vous venez de suivre le témoignage de Jeannette Bayard, responsable Église verte dans le diocèse d'Aire et d'Aix. Maintenant, nous allons entendre le témoignage de l'abbé Michel Garat, curé de la paroisse Saint-Vincent de Paul Bayonne et de deux chrétiennes de cette même paroisse, Nanou et Yvette, qui nous parle de la mise en œuvre du label Église verte dans leur paroisse.
Alors merci, c'était une belle présentation. Et ce qui nous a été demandé à nous, c'est, bon, concrètement, quoi ? Donc, vous entendrez quelques mots qui viennent d'être prononcés. Nous avons une réalité, mais nous ne satisfaisons pas à tous les points qui viennent d'être dits. Bien évidemment, ce n'est qu'une petite expérience. Je n'ai pas été consulter le site. Nous faisons partie des 550 dont j'ai entendu le nombre à l'instant. Et je crois savoir que nous sommes au premier niveau, non ? Ça fait penser au jeu de loi. Au grain de Sénévé. Voilà. Comment c'est venu ? Alors, bien évidemment, il y a le contexte un peu dans notre société. On parlait beaucoup en 2015 et 2014 d'abord, et puis avant aussi, de la COP21. Donc, je crois que ça a été une grande manière pour tous les Français de s'intéresser à toutes ces questions. Je crois, enfin, dans le cas, c'est moi-même, j'étais assez attentif à ça. D'autant que nous savions, à ce moment-là, que le pape préparait une grande encyclique. Elle ne s'appelait pas encore Laudato Si. Ce qui fait que quand cette encyclique a paru, bien, enfin, un petit peu avant, quelques mois avant la COP21, eh bien, nous en sommes emparés. Et c'était une belle manière de voir déjà quel effet cette encyclique avait sur les participants à la COP21. Et je crois me souvenir que Obama, pour ne parler que de lui, avait lu l'encyclique et que d'autres aussi, bien sûr, notre Nicolas Hulot également, il a plusieurs fois fait référence. Voilà, ça c'est le contexte un peu général. Notre contexte à nous, c'est que suite donc à la COP21 et à l'apparition de Laudato Si, nous avons, comme chaque année, nous décidons d'un texte qui puisse nous faire réfléchir les groupes en paroisse. Nous avons choisi Laudato Si. Nous avons passé une année donc à réfléchir, à prendre connaissance. Voilà, et franchement, il faut le lire plusieurs fois pour entendre, par exemple, je crois que c'est le chapitre 3 dont on nous a parlé ce matin, qui est assez technique, à mon avis. Hein. Voilà. Donc il faut, et puis ce sont des concepts, je crois, nouveaux. Bon, je veux bien que ce texte arrive trop tard, comme on l'a entendu ce matin, mais je crois pas. Je crois qu'il est d'une extrême modernité dans l'approche des problèmes. Alors, donc une année passée à cela, et je savais que du côté de Pau, le MEJ préparait un grand spectacle sur Laudato Si. Et donc, au terme de l'année, nous avons à chaque fois une fête de la paroisse, j'ai demandé si les acteurs du MEJ, enfin les animateurs, pouvaient remettre en route, en scène, leur spectacle pour le présenter à Sainte-Croix de Bayonne. Eh bien, c'est Anne Dutheil, que vous connaissez bien, elle a accepté, et donc l'été qui a précédé, ils sont venus pour placer enfin, tout un tas de fils, de choses à faire et compagnie. Voilà, donc c'était une manière très populaire, je crois, de présenter quelque chose de Laudato Si, joué par des jeunes, et même plus que des jeunes, puisque tous les parents des mégistes, enfin des jeunes du Mège, étaient impliqués également. Voilà. Et ensuite à quoi ? Eh bien, est venu, vous avez entendu parler de 2017, ce sont les évêques de France avec une œuvre écuménique, puisqu'il y a les protestants, il y a les orthodoxes, et ils sont engagés vers ce label Église verte. Il se trouve que le relais a été fait à Bayonne par un groupe qui s'appelle BC, qui n'est pas du tout chrétien confessionnel, mais c'est une association qui a beaucoup d'impact. Toutes ces questions écologiques, et politiques aussi, mais écologiques ont vraiment une importance, grande importance pour eux. Et c'est eux qui ont répercuté le lancement de ce label Église Verte sur le Pays Basque et sur le Béarn aussi, enfin je n'ai pas d'écho du Béarn. Et là, ils ont invité largement toutes les églises, les paroisses, les mouvements, les temples, enfin, etc., l'église protestante. On s'est retrouvé un petit nombre, Nanou y était, je crois, oui. Et un petit nombre, mais chacun étant animateur dans son contexte. Le contexte, nous, c'est une paroisse, mais ça peut être aussi un mouvement. Ça peut être, par exemple, le MEJ lui-même ou bien le scoutisme. Comment s'emparer de toutes les questions et du processus qui est proposé pour mettre en œuvre quelque chose de ce label Église verte. Voilà donc pour le contexte de la paroisse. Arrivons à la paroisse plus tôt. Donc là, on a créé une petite équipe avec Anne Saglier, je profite pour l'excuser. Elle devait venir, elle était très attentive à ce qu'il y ait un binôme, c'est-à-dire des gens du groupe, qui ne soit pas simplement donc, le curé, mais qui soit donc, les laïcs qui ont aussi participé et proposé, voilà, pour qu'il y ait au moins une exposition à deux voix. Mais nous serons à trois, nous avons gagné au change. Hein, je ne puis dire. Bon. Et donc, on s'est engagé dans ce level. Je crois qu'il y avait une petite attente quand même. Bon, tout à l'heure, on dira comment ça se passe. On a commencé par le fameux éco-diagnostic. Éco-diagnostic, c'est-à-dire est-ce que le plus accessible c'est ceci, est-ce que dans nos prédications, est-ce que dans notre catéchèse nous répercutons quelques préoccupations de cette sauvegarde de la création. Bon, il se trouve que c'est pas un scoop parce que toutes les catéchèses parlent de la création, mais le parcours que nous avons choisi, tous les mois de septembre sont et seront consacrés à la création et aux questions écologiques. Bon, septembre, c'est bien parce que c'est la rentrée de l'année, mais c'est aussi le mois qui correspond aux jeunes dont on a parlé tout à l'heure, qui va du 1er septembre au 4 octobre. Alors, après cet éco-diagnostic, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on a eu l'idée de proposer des soirées. Et là, je vais donner la parole à Yvette qui va nous parler de ces soirées. Donc, c'était les années déjà 2018-2019. Et ensuite, 2019-20, c'était un peu amputé par le confinement. Voilà, on arrive dans l'actualité.
Donc, quatre soirées communautaires organisées en trois temps. Un bon temps de prière, animé par l'un et l'autre, ou l'une et l'autre de l'équipe, et selon son charisme, elle avait le choix de présenter ce qu'elle voulait pour nous aider à prier. Ensuite, il y avait un partage de repas, mais signe de frugalité, pain et fruits. Ça permettait également en petits groupes de pouvoir échanger. Et puis un temps pour connaître et agir à partir d'un film qui s'appelle « Demain », avec différents thèmes, l'agriculture, la démocratie, les finances, la monnaie locale, l'éducation. Alors il y avait un temps de visionnage du film, et après par petits groupes, un temps d'échange, de questionnement, et de nouveau en grand groupe, avec l'aide d'un animateur, nous pouvions échanger et approfondir par rapport aux thèmes que nous avions donc visionné auparavant et qui nous faisait avancer dans ce label Église verte.
Voilà. Et l'ensemble de ces trois temps, chaque réunion durait à peu près une heure et demie.
Une heure et demie, voilà.
On a voulu à chaque fois un format court pour ne pas décourager les gens. Et voilà, une demi-heure de prière, une demi-heure de repas et une grande demi-heure de débat, on pourrait dire. Alors ensuite, je vais parler de la fête de la paroisse. Et mais il y a eu aussi en 2019 les 50 ans de l'église Sainte-Croix, qui deux ans avant nous ont fait réfléchir, etc. Et puis la question c'était comment faire évoluer un mur qui est derrière l'autel, pour créer du renouveau, mais aussi que ce soit un renouveau actualisé, enfin, qui a un pied dans l'actualité. Alors, on a demandé à plusieurs artistes, mais c'est une qui s'appelle Germaine Ploutot, qui travaille à Bayonne, et qui a eu l'idée de réaliser une fresque. Nano nous en parle.
Alors, c'est une fresque, elle s'appelle La Houdante aussi. Et c'est un décor végétal sur des panneaux de bois colorés. Elle évoque la création et la scène du repas d'Emmaüs. Alors, sur cette fresque, vous allez, il y a une feuille là, si vous voulez la faire passer, que chacun puisse la voir. Alors, il y a des feuilles de vigne. Alors, ce sont des. Cette fresque, elle est.
Inspirée par la Bible.
Inspirée par la Bible, voilà. Donc, les feuilles de vigne. Alors, vous savez très bien, de même que le sarment ne peut porter des fruits, bon, etc. Les épis de blé, alors ces petits graines qui sont dans la main du semeur et qui représentent la parole de Dieu. Et puis il y a les feuilles du figuier, c'est le symbole de l'abondance, qui donne de l'ombre, qui permet le repos. Il y a l'amandier, c'est le signe de la vitalité. L'olivier qui est l'arbre nourricier, il offre de l'huile. C'est l'arbre de la paix. Et il est le témoin de l'angoisse de Jésus, au moment où vous savez ce qui s'est passé. Après, c'est les lys, c'est l'appel à la confiance. Et dans un évangile, il y a « Regardez ce lys des champs ». Et puis, il y a les feuilles de moutarde. Et il est dit, si vous aviez la foi, bon, vous connaissez la suite aussi. Et puis la feuille de chêne, enfin les feuilles de chêne. Le chêne qui est robuste, qui est bien ancré dans la terre. Et la fresque, elle se termine par une palme. Ça veut dire que l'œuvre, elle reste suspendue. Voilà un peu la présentation. Oui. Je ne sais pas si c'est.
C'est ça, oui. Et donc, il y a une progression. C'est donc le décor végétal biblique. Ça va de la représentation d'Emmaüs, termine, comme disait Nano à l'instant, par un buisson. Et qui rappelle le buisson ardent, et juste à côté, il y a le tabernacle. Voilà. Donc, une... En disant que toutes ces boiseries sont éclairées par derrière. Et il y a les feuilles qui ont été ajourées, de telle sorte qu'elles puissent laisser passer la lumière. Voilà. Donc je crois qu'il y a une planche qui circule.
Oui, voilà, on peut vous inviter à venir voir la fresque. Hein.
On a évité à le faire parce qu'à côté de la...
Oui, ah, quoi, c'est bien, oui, ça, c'est tout à fait logique. Voilà. Mais l'invitation marche toujours. Voilà. Si vous voulez venir à Sainte-Croix, vous aurez dès visu une idée de la fresque.
Elle est très belle.
Alors, bon, voilà une réalisation. La suite. Alors, le Covid, évidemment, est venu interrompre tout cela. Mais au début de cette année, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre, nous avions prévu de continuer ces soirées en trois temps, prière, jeûne et puis réflexion. Et nous avions prévu de faire des fiches mode d'emploi pour des choses courantes. Par exemple, c'est classique, on commence toujours par ça, mais comment fabriquer des produits d'entretien pour la maison, etc. Je crois que Yvette avait la mission de commencer.
On a commencé avec du savon. On a commencé à fabriquer du savon.
Voilà. Et bon, mais ça reste de là à mettre en œuvre. Et puis, c'est une manière concrète de sensibiliser. Si c'est des petits savons, on peut les mettre à la sortie de la messe en proposition. Et avec un mode d'emploi, comment réaliser la même chose chez soi, par exemple. Voilà. Bon, donc, il y a cela. Alors, le bilan à ce stade, bon, ça sera...
Oui. On avait fait également des petites fiches pour faire un pas de plus dans l'amélioration de nos comportements, par exemple faire attention à l'eau, faire attention aux mails, nettoyer. On a fait des petites fiches qu'on a distribuées et on attend le résultat pour savoir si chacun a pu faire un petit pas par rapport à telle action très concrète de la vie courante. Voilà.
Ouais, et ça a commencé aussi par les sacristies. Par le tri sélectif. Le tri sélectif. Voilà, ça c'est facile. Tout le monde, vous pouvez aller dans votre église et dire, tiens, comment se passe le tri ici?
Voilà.
Oui.
Pas n'importe comment.
Voilà, et puis bon, quand on a fait des travaux dans les salles et tout ça, dans les couloirs, on a mis comment ça s'appelle ça?
Des minuteries.
Voilà, pour pas que ça reste allumé toute la nuit, bon, et compagnie. Bon, ça passe par des petites choses, mais c'est important. Alors, le label, je crois que c'est... Petit à petit, qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Bon, c'est aussi la connaissance des problématiques, parce que ce matin je parlais de l'agriculture, mais il va ajouter l'éducation, tous les autres sujets de société évidemment qui sont concernés. Ça nous donne un angle de lecture quand des choses paraissent, on se dit tiens, c'est mon réflexe de découper puis de constituer un petit dossier. Là, très récemment, cette semaine, on entend parler de ce philosophe. Il est temps qu'on en parle parce que ça fait longtemps qu'il produit. Mais Bruno Latour.
Je l'ai cité ce matin.
Oui, alors que Catherine l'a cité ce matin. Ça fait l'objet d'un dossier dans La Croix il y a un ou deux jours. Bon, voilà. Donc, voilà un bénéfice. C'est-à-dire, ça nous rend attentifs à ce qui se dit, à ce qui s'écrit, à ce qui se réfléchit, à mon avis. Voilà. Alors ensuite, et bien maintenant, comment continuer? On ne sait pas. Je crois que c'est une démarche qui est au long cours. Il faut toujours soutenir l'attention, évidemment, parce que tout retombe. Et puis, l'autre inconvénient pour nous, surtout les curés de la paroisse, c'est qu'un thème chasse l'autre. Bon, rien que notre pape François, il est très gentil, mais ça fait au moins trois textes majeurs que nous avons comme ça à brouter, mais on n'a pas le temps. Bon, voilà. Donc, il vaut mieux choisir quelque chose et s'y tenir plutôt que d'aller d'un texte à l'autre. Voilà pour nous.
Vous venez d'entendre le témoignage de l'abbé Michel Garat, curé de la paroisse Saint-Vincent de Paul Bayonne, et de deux chrétiennes de cette même paroisse, Nanou et Yvette. Voici maintenant le témoignage de Monique Angulot, pépiniériste. Son témoignage est intitulé « Espace vert et urbanisation ». Monique Angulot.
Donc la pépinière familiale a été créée après la guerre de 1870 par un ancêtre qui... venait de l'Aude, qui faisait partie d'une famille nombreuse, et comme à l'époque, tout le monde se dispersait, que ce soit les Basques, les Béarnais, les Landais, les Audois. Donc il y a eu beaucoup de mouvements en fin 19e siècle et début 20e. Et cet ancêtre s'était fixé donc à Bayonne. Il savait greffer la vigne, des arbres fruitiers. Il a essayé de faire ça au nord de Bayonne, mais comme nous sommes au bord de la Dour, il faisait trop humide. Donc il est devenu pépiniériste généraliste. Il faisait aussi beaucoup de jardin, beaucoup de légumes, de plants de légumes en particulier. Vous savez que maintenant, c'est redevenu très à la mode. Chacun fait son potager. On n'a pas encore de jardin potager autour de l'église de Sainte-Croix. Peut-être que ça viendra un jour. Il faudra sécuriser. Voilà. Alors, au-delà de cette petite particularité de famille Maillot et de sa pépinière, je suis ici pour que nous puissions réfléchir au devenir des espaces verts périurbains dans ce que le pape François appelle les périphéries, puisque pour nous, ce n'est pas, c'est pas un terme de sociologie ou de géographie, mais c'est quelque chose que nous vivons, puisque nous avons peut-être parfois, en contemplant la nature, la tête dans les étoiles, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et pour nous, c'est une histoire de terre. Et partant de là, de défense de la terre. Alors, par rapport à l'encyclique Laudato Si, certains scientifiques critiquent Laudato Si parce qu'ils trouvent que ça plane un petit peu et que ça n'est pas suffisamment scientifique. Alors, je crois que justement, la démarche chrétienne, ça va être d'allier les deux et d'allier le... Alors là, on ne va pas dire le rêve, mais le salut et la résurrection à quelque chose de très terre-à-terre. Alors, dans la famille, nous échangeons parfois sur ce thème parce que nous avons un fils, Marie et moi, un fils qui a étudié l'écologie à Moscou. Son école d'ingénieur à Lyon l'avait envoyé à Moscou étudier l'écologie avec trois autres camarades. Donc, l'écologie, c'est une science, mais... il faut aussi de la conscience, vous connaissez le vieil adage des Grecs, et donc ça demande un engagement total, et parfois un engagement aussi patrimonial, financier, et un projet de vie. Donc c'est ce que nous vivons un petit peu dans la pépinière, outre le travail qui permet de faire le chiffre d'affaires. Nous avons des salariés, donc il faut être bien... peut-être pas scientifique, mais bien pratique. Il faut aussi se dire que nous faisons cela pas uniquement pour gagner notre pain, mais dans une démarche respectueuse de la planète. Et là, nous retrouvons Laudato Si. Alors, pour garder une exploitation agricole en ville, puisque nous sommes rejoints par la ville, et qu'il y a parfois des tremblements de terre, c'est comme la tectonique des plaques. La ville avance, et il y a choc avec les espaces naturels, avec les exploitations agricoles qui y sont situées. Et on a toujours été, on a l'impression de parfois comme le funambule sur son fil, vous voyez, sur l'arête, sur une crête montagneuse bordée de précipices. C'est un véritable combat dont il s'agit, hein, pour garder les terres en milieu urbain. L'endroit... Nous avons, depuis 1992, veillé à le protéger. Donc, vous voyez, 1992, c'est quand même très ancien. Les premiers courriers au ministère de l'écologie. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas ainsi. Vous le savez, c'est un ministère qui a changé beaucoup d'appellations. C'est le premier ministère auquel on rogne les attributions, hein, puisqu'une ministre a récemment démissionné parce qu'on venait de lui supprimer des moyens. Et il faut savoir aussi qu'au ministère de l'écologie, vous comptez beaucoup d'agents qui sont très militants, qui sont vraiment écologistes dans l'âme, mais que beaucoup de ces agents sont des vacataires. C'est-à-dire que s'ils s'engagent trop, on supprime leur ligne budgétaire. Au revoir et merci. Allez donc militer ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. On parle toujours des fonctionnaires, des gens qui ont du pouvoir dans les ministères, mais ce sont des ministères fragiles. Mais bon, 1992, différentes étapes. Il faut quand même toujours se dire que pour qu'un exploitant agricole puisse faire entendre sa voix, il ne faut pas qu'il soit en difficulté financière. Parce que dès le moment où il est en difficulté financière, c'est fichu. Donc là, on a veillé à rester en bonne santé financière. Donc ça demande un engagement de tous les jours. Ce qui fait que je n'ai jamais le temps de participer aux soirées organisées au niveau paroissial. mais on a réussi, je vais vous dire comment, on a réussi en 2008 à obtenir un classement au titre des sites, parce que l'endroit est très beau, très sauvage, il y a une tourbière. Ce sont des endroits qui ne sont pas tellement visibles de la ville, d'ailleurs. Il faut rentrer chez nous pour se rendre compte. Et donc les clients, bien sûr, connaissent un petit peu l'endroit. Et donc nous avons obtenu un classement selon la loi de 1930. Ici, d'ailleurs, Buglos est un site classé. On voit le logo sur le panneau. Et nous aussi, nous disposons de, cette protection qui est la plus forte en France. C'est bien plus fort que Natura 2000. Alors, ce classement, comment a-t-il pu arriver? Eh bien, donc, en 2008, sachant que notre dossier avait mis plusieurs années avant d'arriver à Paris, parce que vous le savez, il y a des étapes préfectorales, préfectorales de région, interrégionales, et puis après, il faut que ce soit signé à Paris. Donc, on a eu la chance de bénéficier de la visite d'une inspectrice du Conseil général des ponts et chaussées, qui s'appelle maintenant Conseil général du développement durable. Cette dame, Catherine Bersani, était une ancienne directrice de politique de la ville au ministère de l'équipement. Et elle a fait un dossier très sérieux sur notre affaire. Nous avons eu un très bon accompagnement de l'inspectrice régionale aussi. Et enfin, nous avons pu bénéficier à 15 jours près, avant qu'elle soit évincée de son poste, de la signature par la secrétaire d'État Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était dans une démarche très sincère par rapport à nous. Et donc, 15 jours avant de quitter son poste, elle a signé l'arrêté ministériel de classement du site. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait dans une fenêtre de un mois. Si nous n'avions pas bénéficié de son appui, je pense qu'on ne serait toujours pas classé et qu'il y aurait des immeubles en béton à la place de notre site. Voilà, donc ce site fait 8 hectares, donc nous sommes à l'entrée d'une zone protégée qui s'appelle Espace naturel sensible de Habas, que les voisins connaissent. Et il s'agit en fait de zones privées, ce ne sont pas des endroits publics, ce qui fait que c'est resté longtemps préservé. Des moments où vous faites rentrer du public, où vous avez des routes, des choses comme ça, il devient beaucoup plus difficile de protéger ce type d'endroit. Donc c'est à la fois une protection pour le site physique et aussi une protection pour notre activité, puisque la façon très traditionnelle que nous avons de produire nos végétaux a été reconnue aussi par le ministère. Donc nous veillons à continuer tout cela en dépit de tout, en dépit du coronavirus, en dépit des difficultés du temps, qu'elles soient climatiques ou économiques. Alors, j'avais fait un petit plan, je crois que vous l'avez eu dans votre dossier. Voilà, j'ai parlé de manière un petit peu décousue. Je vais essayer de faire très rapidement, puisque je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que l'espace vert? Alors, il y a des milliers de types d'espaces verts. Le premier espace vert qu'on appréhende, c'est celui qu'on voit dans le paysage, bien sûr. Il y a aussi une façon de voir dans les bureaux d'urbanisme. C'est pas du tout la même. Et un espace vert, ça peut être à la fois donc une grande forêt, un endroit très sauvage, et ça peut être aussi une jardinière sur un balcon. On sait désormais tous que si on plante un pot de romarin sur son balcon, on va attirer des abeilles, on va en profiter pour aromatiser un plat, et que ça va être beau aussi. Donc une plante très humble va parfois avoir une utilité bien au-delà de ça, d'elle-même. Mais avec aussi toujours derrière la tête le danger de la communication, on va dire, la communication institutionnelle, c'est-à-dire que nous avons connu ça à l'époque de l'implantation d'une usine sur une de nos terres, un discours disant que, bien sûr, ça allait supprimer un champ, mais on avait dit après tout c'était pollué, puisque les agriculteurs sont des pollueurs, et puis c'était au bord d'une route, c'était une espèce de délice urbain. On a vu beaucoup de choses comme ça, et le danger, c'est qu'on vous dit, bon, bien sûr, on va démolir 5 hectares de bois, on va mettre on va sortir des cultures de plantes, mais on va installer sur l'usine des grands réseaux verts, des jardinières, pour maintenir la trame verte et bleue. Vous voyez, donc il faut faire toujours très attention aux discours qui sont toujours séduisants et qui servent souvent à justifier des pratiques honteuses. Donc, agriculture extensive, oui, parce que dans notre... alors, après, donc, définition technique, définition politique, hein, il faut faire toujours attention aux interprétations par les communicants. Après, j'ai parlé des appropriations. Alors, les appropriations, c'est un terme un petit peu mode, un petit peu sociologique, qu'on peut traduire par la foire d'empoigne, hein, pour les terrains, pour les espaces verts. Vous voyez à peu près ce que je veux dire par là, puisque un espace vert, c'est vu comme un terrain souvent inutile ou un terrain possédé par deux ou trois égoïstes qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas qu'on construise pour accueillir du monde. Et donc, il peut y avoir un antagonisme, effectivement, entre le privé et le public. Et cet antagonisme est soigneusement attisé par les urbanistes qui cherchent à réaliser de l'habitat. Donc, il faut être toujours très, très conscient de ces choses-là. Très conscient. Et se dire que, par exemple... Alors, j'ai mis du privé à l'associatif parce qu'effectivement... On assiste désormais à des politiques urbaines qui se répètent du village à la grande ville. La collectivité publique préempte des terrains mis en vente par des privés, par exemple, ou lors de successions. Et donc, la grande mode, c'est d'attribuer ces terrains, après découpage, d'attribuer à des associations. Parce qu'une association, ça peut compter jusqu'à 300 ou 400 membres. Donc, on confie un morceau de terrain à une association, on lui fait une mise à disposition de quelques années, ou de quelques mois, peu importe. Et puis, cette mise à disposition permet donc de faire ce qui est à la mode actuellement, de la permaculture, sur couche de feuilles, et, de faire un petit peu d'agroforesterie. Mais il faut savoir que ce sont des mises à disposition temporaires. Donc, à tout moment... l'association qui est subventionnée, donc qui est quand même dépendante du bon vouloir de celui qui doit attribuer le terrain, peut se voir dire, eh bien, il faut maintenant changer d'endroit, on va déclasser les terrains et les remettre à l'urbanisme, et donc on va vous attribuer d'autres terrains un petit peu plus loin. Donc vous voyez, en fait, quand le collectif se mêle d'agriculture, ça n'est pas toujours très durable. Voilà, donc il faut avoir toujours ça en vue et se méfier parce que réellement, les agences de communication qui travaillent pour les gouvernants sont orfèvres en l'art de vraiment faire prendre des vessies pour les lanternes. Voilà. Alors, sanctuariser les espaces verts, remettre la nature en ville. En fait, remettre la nature en ville, c'est une chose. Sanctuariser les espaces verts, un peu sauvage, ce n'est une autre. Alors, remettre la nature en ville, je pense que M. l'abbé Garat a connaissance du mouvement associatif qui s'est levé au quartier Saint-Esprit, puisqu'il va y avoir l'urbanisation de grandes propriétés ex-diocésaines. Et là, j'ai travaillé un petit peu avec une association qui voulait garder de l'espace vert. Donc, comment faire pour garder un espace vert? Si l'on en écoute les promoteurs et les aménageurs, il suffit de mettre des jardinières en béton, de par exemple 2 ou 3 mètres carrés. On dit aux gens, vous allez faire un potager là. On met deux autres arbres dans deux autres grosses jardinières et on bétonne tout le reste. Bon. Or, eux ont décidé d'exiger un jardin de pleine terre. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y aura de la terre vivante et non pas des bacs avec de la terre artificielle. Voilà. Et ce qui permet de garder des zones bien plus riches en biodiversité, qu'elles servent à du potager ou à du décor. Donc ça, c'est intéressant. C'est une démarche, c'est la bonne démarche. Il faut garder des vrais jardins en ville et non pas des jardinières ou des petits réseaux. Et après, donc, maintenir les espaces verts en ville, c'est quelque chose qui est primordial aussi. Et alors, il faut faire attention quand on dit sanctuariser. Il ne s'agit pas de, vous savez, de faire de la... je sais pas, une fausse religion, hein, de diviniser la nature, mais tout de même, il faut protéger du mieux qu'on peut. Alors, donc, je vous ai parlé tout à l'heure du classement de la pépinière au titre des sites. Donc, c'est une loi qui date de 1930. C'est la même chose que pour les monuments historiques. Monuments historiques ou sites, c'est pareil. Sauf que, vous l'avez vu maintenant, les monuments historiques n'ont plus de périmètre de protection. Tout ça a sauté avec la loi de 2015. Donc on peut construire n'importe quoi au ras d'un monument historique, et ne parle pas des sites, puisque on a pris nos deux usines en lisière de notre site classé. Voilà. Alors, il faut en fait être toujours vigilant. Il ne s'agit pas de se dire tout va bien, on est protégé. Il faut être vigilant et être toujours en contact avec les décideurs de l'urbanisme, ce qui est très complexe parce que souvent, les décideurs peuvent être amenés à mentir ou à vous raconter des histoires. Dans le nord de Bayonne, là, dans le quartier Saint-Étienne, nous avons une des plus grandes concentrations du département en matière d'espaces protégés. Donc, outre le site des Pépinières, vous avez aussi un espace naturel sensible, qui est donc majoritairement privé, sauf une petite partie qui est municipale et départementale. Et cet espace naturel sensible bénéficie d'une charte, la charte des EENS. Tout ça avait été renforcé lors du vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale, du vote pour la loi montagne et la loi littorale, il y a déjà longtemps. Tout le monde avait voté unanimement pour cette loi. Il faut savoir que maintenant, depuis quelques années, que ce soit à gauche ou à droite, et au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de nombreuses voix de députés s'élèvent contre la loi montagne et la loi littorale, puisqu'elles sont censées brider l'urbanisation et empêcher à outrance l'urbanisation. Avec toujours de très bons arguments, il faut loger du monde, il faut faire de la place, il faut tout concilier, on gardera de l'espace vert. Il faut faire attention. Et en particulier, nous avons été amenés, dans le cadre de la défense de notre site, puisqu'on a, en plus du site, on a des terrains où nous cultivons des arbustes et des arbres. Donc, pour conserver l'exploitation, il faut non seulement le site, mais aussi des champs alentours. Là, le bas blesse beaucoup, parce que ces champs, nous en louons une partie, et vous pensez bien que les propriétaires aimeraient bien nous voir décamper pour vendre ces terrains. Espace naturel sensible, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est les arrêtés, les textes et les plans. Si vous avez l'un et pas l'autre, vous ne pourrez jamais vous faire entendre. Les plans sont un secret très bien gardé. Si vous demandez au préfet ou au maire, vous n'aurez jamais les plans. Donc, on a pu les avoir par le biais associatif. Et là, on s'est aperçu que de morceaux conséquents et bien placés en bord de route de cet espace naturel sensible qui est inconstructible, interdiction de construire, ont été zonés en espace constructible. Et il faut être prudent aussi pour ceux qui ont des bois autour de chez eux et qui sont désireux de conserver les bois. Faire très attention parce que quand vous avez des bois zonés, espace boisé classé au niveau du PLU, il faut toujours vérifier qu'il y ait concordance avec le cadastre, avec les plans du cadastre. Ce sont eux qui font autorité. Donc, vous voyez, il faut être toujours dans un souci d'enquête perpétuelle pour voir ce qui se passe réellement. La suite de tout cela, parce que protéger, c'est bien, on protège, une personne s'engage à telle génération, bénéficie donc, comme je vous l'ai dit, de circonstances favorables, mais ça ne se représente pas tout le temps, ce genre de contexte. Et là, en fait, il faut aussi que la génération suivante, que la jeune génération, qui n'est pas toujours très nombreuse dans nos églises, suive ce type de démarche. Et donc, nous avons été heureux dans la famille de voir qu'il y a quand même une adhésion des enfants à cette démarche, qui est très Laudato Si, puisque nous faisons du Laudato Si sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose depuis un certain temps. Voilà. Donc, nous sommes heureux d'avoir des perspectives relativement encourageantes. Après, les conditions climatiques, les crises sanitaires et autres diront ce que nous pouvons faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Espace vert et urbanisation, vous venez d'entendre le témoignage de Monique Angulo, pépiniériste. La création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. session sur l'écologie intégrale enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Eredax et de Bayonne. Vous pouvez retrouver toutes les interventions sur le site internet de l'antenne de théologie des Pays de la Dour, atpa-theologie.com.